Bien, bonjour à tous. Nous allons vous proposer tous les trois une discussion à bâton rompu. On pourra répondre à certaines de vos questions ensuite, plutôt à la fin, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc autour de la musique dans le cadre du jeu de rôle sur table, qui est une pratique qui tend à se développer, d'où le sous-titre « Une pratique en plein essor », mais qui n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire pendant quelques décennies presque, le jeu de rôle n'a presque pas utilisé de musique pour scénariser les parties, entre autres du fait de la technique. On voit bien que de nos jours, il est très facile d'accéder à plein de morceaux différents, de les enchaîner très facilement. Autrefois, c'était beaucoup plus difficile. Alors oui, on se présente très vite. Donc, Mathieu Wilbert est compositeur de musique de film. Et entre autres, donne des cours dans le cadre de la licence musico à la Cato d'Angers, dont une option propose aux étudiants de travailler des musiques, de composer eux-mêmes des musiques pour des scénarios de jeux de rôle. Donc il intervient à ce titre de compositeur de musique. Thomas Munier, lui, est mélomane averti. Et lui, autour de la musique et du jeu de rôle, a plutôt établi des playlists très développées, en particulier à travers un ouvrage qui s'appelle « Musique sombre pour jeux de rôle sombre ». Voilà.
Je l'ai amené là, avec la pochette la plus belle du monde.
Et dernièrement, Mathilde dit, il nous expliquera ça tout à l'heure, il a développé un jeu de rôle qui s'appelle « Dragonfly Motel », où la musique tient un rôle dans le cadre même du scénario. Alors pour ce qui me concerne, je suis Denis Huneau, je suis le responsable de la filière musicologie à la Cato d'Angers. J'impulse donc cette orientation particulière de certains cours donnés à nos étudiants. Et puis par rapport au jeu de rôle, je suis traducteur semi-professionnel. J'ai traduit un certain nombre de volumes pour Sans Détour, pour l'Appel de Cthulhu, dont l'édition 7 là, qui sort en ce moment. Et puis pour d'autres éditeurs aussi. Alors je vais commencer par vous faire un petit historique de ce rapport entre la musique et le jeu de rôle sur table. En fait, au départ, il y a très peu de rapports, d'où mon sous-titre « La musique par les mots » parce qu'on ne l'entend pas en fait. La musique n'est présente finalement dans les premières décennies du jeu de rôle. Je rappelle que le jeu de rôle naît en 1974 par Donjons et Dragons, donc on est à 41 ans maintenant. Et dans les premières décennies, la musique ne se voit qu'à travers à travers certains personnages. On va dire que deux périodes de jeu se proposent d'utiliser des personnages en lien avec la musique. Alors nous avons tout d'abord l'Heroic Fantasy et avec Donjons et Dragons et le personnage du Bard. Alors voici ici la première édition des règles avancées de Donjons et Dragons, 78. Et on a ce personnage du Bard et le luth qui l'accompagne, mais en annexe, c'est-à-dire il ne fait pas partie, ce musicien, des personnages absolument principaux. On va avoir une définition de ce personnage qui est à la fois un musicien, mais une sorte de lanceur de sorts qui peut, par sa musique, influer sur les autres. La deuxième édition propose également un personnage de Bard, ici on voit l'illustration avec une sorte de vielle. Bon, parfois c'est assez fantaisiste et c'est normal, mais on se rend compte que les auteurs n'ont pas toujours une connaissance approfondie de la musique elle-même. Dans l'édition 3, voilà notre Bard qui évolue malgré tout. Hein. On le voit plus avec des armes ici qu'avec des instruments de musique, même si on cherche bien derrière, on voit bien une espèce de manche de guitare-luth, on ne sait pas trop, en bandoulière. Et puis, dans la quatrième édition, ce personnage n'est présent que dans le manuel des joueurs numéro 2. Donc, tout ça pour vous montrer que, même s'il y a un personnage de musicien et qu'il y a un peu de musique évoquée dans ce cadre-là, ce n'est pas obligatoirement le personnage principal. Et dans cette édition 4, il faut attendre le deuxième volume du manuel des joueurs pour avoir le personnage qui n'est donc pas de base. Autre période proposée qui utilise des personnages de musiciens, c'est l'anticipation, le cyberpunk. Voici ici un jeu de rôle qui maintenant n'est plus tellement édité, mais qui a été très important à son époque, qui transcrivait en jeu de rôle en fait tout le courant littéraire du cyberpunk, et avec le personnage du Rocker Boy, qui là aussi finalement, pas si éloigné du Bard, est un artiste qui soulève les foules, qui peut donc les influencer. Le concurrent, on peut dire, de Cyberpunk en jeu de rôle, c'est toujours Shadowrun, sauf que dans cette première édition de Shadowrun, il y avait un personnage de musicien ou de musicienne ici qui a disparu ensuite dans les archétypes des éditions successives. On est actuellement à la 5e édition de Shadowrun, qui est un des jeux de rôle les plus édités, les plus diffusés. Et puis, alors on ne va pas lire tout le texte bien sûr, mais c'est pour vous dire justement que la musique a son importance dans ce type de monde. Dans cette 4e édition de Shadowrun, il y a tout un paragraphe assez développé autour de la musique qui explique qu'elle est partout. Et on imagine bien la chose, puisque dans notre propre monde, elle est déjà pas mal partout. Donc dans un monde un peu du futur, ce sera très probablement le cas. Vous voyez, le texte commence par « La musique est partout, chez vous, dans votre voiture, là où vous faites vos courses. Elle sort du panneau publicitaire devant lequel vous passez. Et même dans votre tête, remerciez les implants subdermiques. Qu'elle soit classée dans le top 40 corporatiste et complètement aseptisée, ou issue d'un des innombrables styles musicaux comme le gobelin rock, oui, dans Shadowrun, il y a une dimension fantastique, la musique acoustique, elfique, ou encore le synthrash ou le néoclassique, ou un mix de tout ceci, la musique fait partie intégrante de la vie dans les années 2070. D'autres jeux de rôle, toujours dans cette mouvance, un Kuro qui associe l'anticipation, le fantastique et le monde japonais à un personnage d'idolou, pour le coup, d'idole. J'avance dans la précision de plus en plus de la musique avec le jeu de rôle, avec ici un scénario déjà ancien d'un jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon, où tout se passe dans les rêves des dragons, c'est tout à fait onirique, et où tout le scénario est basé autour de la musique. Une très belle première de couverture, illustration de Florence Magnin, et tout tourne autour de la ballade, un terme proprement musical, ballade de harpsichore. Je ne vais pas tout vous lire, mais elle est en 4e de couverture et elle contient en fait tous les indices qui permettront aux personnages d'avancer dans le scénario et de comprendre ce qui se passe. Alors, on arrive maintenant à la musique qu'on va entendre quand même. D'abord, des jeux de rôle, au fur et à mesure, vont proposer aux maîtres de jeu des playlists, ou en tout cas des ambiances sonores générales, mais qu'ils associent à leur monde. Kuro, dont j'ai parlé tout à l'heure, Japon plus anticipation plus fantastique, donne une page d'inspiration avec une sélection musicale en haut, dont on voit qu'il y a beaucoup de BO, bande originale, et c'est un fait, pendant très longtemps, les maîtres de jeu vont utiliser des bandes originales de films pour scénariser leurs parties, et c'est tout à fait normal, puisque musique de film et musique de scénario de jeu de rôle, c'est un peu pareil. La seule différence, c'est que, comme vous le savez, le scénario de jeu de rôle n'est pas terminé à l'avance. On ne sait pas ce que les joueurs vont décider, ce que les dés vont donner, et c'est moins préécrit qu'un film. Mais néanmoins, il s'agit de musique d'ambiance à chaque fois. Dans la version anglaise, puisque ce jeu de rôle français a été traduit, on voit que l'éditeur anglais a réorganisé la sélection musicale par catégorie. Une sélection musicale en haut et des bandes originales en dessous, pour bien distinguer des groupes musicaux de bandes originales. Toujours cet éditeur 7e Cercle, qui est un éditeur bordelais, Sable Rouge, qui se passe sur Mars précisément, c'est très à la mode, mais une sorte de Mars Far West, propose également des inspirations de musique. Donc vous voyez Ghost of Mars, évidemment, Conan le Barbare, etc. Pour d'autres jeux de rôle, on aurait pu penser qu'ils proposent des inspis musicales, Yggdrasil dans le monde des Vikings, ou Z-Corps dans le monde des zombies, mais pas de playlist pour ces jeux de rôle. Alors maintenant, la musique comme support de jeu préexistante, elle peut déjà exister dans le scénario. Par exemple, vous avez ici Minuit Sonnant, qui est un scénario pour l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, la plupart du temps, se déroule dans les années 20, dans les années 30, aux États-Unis en particulier. Et ici, dans ce scénario Minuit Sonnant, vous avez à longueur de temps des titres de jazz de l'époque, de Charleston, etc., qui sont cités. Et j'avais ajouté, puisque je l'ai traduit moi-même, dans les notes en bas de cette première page, qu'en tapant les titres cités sur... sur un moteur de recherche, on pouvait retrouver ça et se faire une playlist tout à fait adaptée. Et donc là, uniquement avec les titres qui sont cités dans le scénario lui-même. Pour vous rappeler un petit peu la difficulté qui était celle des maîtres de jeu à une époque, voici le témoignage d'un maître de jeu qui raconte un peu ses bidouillages. « J'ai commencé à jouer en musique dans les années 85-86 en fond sonore de mes parties d'Advance Donjons & Dragons et de Stormbringer. J'avais des enregistrements télé de films comme Conan, Legend, plus tard Willow. Après, je suis passé sur l'achat de BO de films. Aujourd'hui, il n'y a pas de partie sans musique de fond ou d'ambiance. Cela permet d'apporter un plus dans certaines situations et maintient les joueurs dans un cadre selon l'ambiance, l'époque, le genre souhaité. » Bon, voilà, j'avais des enregistrements télé de films. On imagine les cassettes vidéo qu'on repique, etc. Alors ça, c'est un petit peu trop petit pour lire, donc je passe. Quelques tentatives assez originales et de bonheur, puisqu'on est en 2004, étaient proposées. Alors justement, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Arnaud Cuidet, un auteur très connu aujourd'hui, qui proposait dans la revue Casus Belli un scénario pour Conan, qui utilisait la BO du film Conan, tout simplement. Et chaque description, vous voyez en bas à droite là, un encadré qui normalement est lu par le maître de jeu, est associé à une musique, une plage de CD, et ça fonctionne très très bien. Alors voici par exemple la roue. Le soleil se lève sur le désert chimite. Le sable prend une teinte dorée puis blanche. La chaleur s'abat sur vos épaules. Vous voudriez rester couché à l'ombre des tentes. Mais déjà, la morsure du fouet se fait sentir. Vous traînez vos carcasses, empêtrées par les chaînes, jusqu'à ce qui est devenu le centre de votre vie, la roue. Vous posez vos mains contre les madriers et vous poussez. Vous poussez la roue. La roue de la douleur, inlassablement. Sous le soleil de plomb. Vous tracez un sillon dans le sable du désert chimite, sous le regard vigilant et cruel de vos gardes, etc. Ça fonctionne très bien et la playlist est extrêmement bien choisie. Il faut dire que c'est le film d'origine. De plus en plus de scénarios, comme ici, un scénario COPS, qui évoque là aussi un monde d'anticipation, de police du futur, propose une playlist accompagné de quelques commentaires et certaines choses assez amusantes. Vous voyez par exemple Superette, pour le passage où il va y avoir une scène d'action dans une Superette. L'auteur, Cédric B, propose une musique un peu sirupeuse pour la clientèle qui fera contraste avec la violence de la scène. Only You, popularisé par les Platters. On imagine bien effectivement ce contraste. Et puis, désormais, il y a des, et on va vous en parler juste après, des produits directement dédiés. On ne se contente plus d'utiliser des musiques préexistantes, de films, etc. Et il y a des ouvrages, des produits qui existent directement. Alors, d'abord, un certain nombre de jeux de rôle sortent avec des bandes-annonces, maintenant, qui sont disponibles sur le net, plus ou moins bien mises en forme. Vous pouvez trouver des bruitages. Vous pouvez trouver des CD ou des choses à télécharger associées à un jeu. Et puis, même des choses consacrées à des scènes précises. Alors, pour la bande-annonce, bon, je n'ai pas de connexion Internet ici, donc je ne vais pas pouvoir vous lancer. Mais j'aurais pu vous montrer la différence entre une bande-annonce française pour Loup Solitaire, bon, qui est faite un peu de briquet de broc, et puis la bande-annonce de Kuro pour la version anglaise, qui, elle, est extrêmement professionnelle, avec une bande-son... où on passe certaines images vraiment très très professionnelles. Alors voici un site qui existe toujours et qui permet d'avoir beaucoup de bruitage. Je peux peut-être en passer un. Normalement, j'en ai un ou deux là. Voilà, un pont-levis. Vous avez plusieurs dizaines comme ça de petits fichiers de bruitage pour certains. Alors ça, c'est la version taverne. Black Book avait sorti un produit qui était très nouveau pour l'époque. mais qui n'a pas absolument marché. Enfin bon, ça s'est vendu, mais il est toujours disponible et à un prix complètement bradé de nos jours. C'est-à-dire que vous aviez un scénario médiéval fantastique et deux CD. Le problème, à mon avis, c'est que les CD ne renvoyaient pas au scénario lui-même. Donc il y avait une espèce de produit hybride comme ça, qui sans doute a contribué à ce que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait le produit est vraiment intéressant, puisque la musique a été réalisée par un ingénieur du son professionnel qui possède son propre studio à Lyon. 18 pistes audio, mais c'est idiot en soi, le scénario proposé ne renvoie pas aux pistes des CD. Des CD maintenant directement dédiés pour cette immense campagne de l'appel de Cthulhu qui fait 600 pages, hein, très très épaisse. Vous avez un CD dédié avec des plages, qui est d'ailleurs complètement épuisé, hein, mais bon, qu'on peut trouver éventuellement. Un jeu de rôle, Les Ombres d'Esteren, dont un représentant devait être ici à l'origine, qui directement a été associé avec une compositrice attitrée. Donc la dimension sonore a été directement pensée. Et vous avez un site MySpace et entre autres qui propose des bandes son. Je passe vite hein, parce que je veux quand même donner la parole à mes collègues. Mais voyez ici sur MySpace, vous avez plusieurs morceaux que vous pouvez écouter. Vous avez un des suppléments qui possède un CD pour une ambiance dans un monastère médiéval fantastique. Et puis, ils se sont même associés à un orchestre pour donner un concert par rapport aux musiques qui avaient été composées pour ce jeu de rôle. Donc ça va assez loin hein, dans le concept. Alors on va passer à Thomas Munier. Voici son site. Et il va donc nous expliquer un petit peu sa démarche.
Merci à toi, Denis. Tu parlais assez clairement hein, que l'utilisation de la musique par les meneurs et les meneuses de jeu, par les MJ, a été facilitée en fait, par l'accès à la technique. Moi, je sais au début, quand je maîtrisais, en fait, la seule chose qu'on avait pour sonoriser, en fait, c'était les bruitages à la bouche, quoi. Alors, je vais le faire. Comme là, vous êtes 50, ça va être très ridicule, mais ça peut faire son petit effet, en fait, quand vous avez 4 personnes à la table. C'est l'avantage du jeu de rôle. C'est une création intime. Et donc, on peut se permettre des choses qui, créativement ou artistiquement, pourraient paraître très amateurs, sont tout à fait valables dans une partie de jeu de rôle. Quoi.
Et qui fonctionne avec ce groupe-là. Quoi.
Oui, voilà. Donc là, par exemple, vous avez la pluie. Vous avez les éclairs. Et puis, vous avez le monstre. Moi, j'aime bien faire les monstres parce qu'on parlait de l'appel de Cthulhu. Moi, j'ai été très longtemps meneur sur l'appel de Cthulhu. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je continue à faire, quoi, malgré la musique. Après, je me suis mis à collectionner les CD par paquet de 12. Hein, j'en ai sur mon armoire, j'en ai à peu près 600. Sur l'ordinateur, genre l'équivalent d'un an de musique si on passait tout à la chaîne, quoi. Donc c'est vrai qu'avec la technique, avec aussi la facilité d'accès à la musique qu'on a, on se retrouve avec pléthore d'inspiration musicale. Je vais rester un tout petit peu sur les bruitages pour vous montrer le genre de petite farce qu'on peut faire à ces joueurs. Alors attention, moment technique d'une virtuosité sans égale. Pour lire un CD.
Tu l'as pas mis,
ouais. Non, mais je pensais qu'il y avait un lecteur CD intégré. Ok, bah comment tu. Ah, il faut juste le mettre.
Ouais. Ça alors, peut servir, vous voyez. Hein, pour écouter un CD.
Alors, justement, ce qui est important quand vous êtes MJ, c'est d'avoir un matériel que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Donc, moi, je suis très vieille France, c'est-à-dire que quand je viens avec mon lecteur CD, en fait, je l'amène parce que vous voyez, vous avez des petits problèmes de timing quand vous utilisez un matériel que vous connaissez pas. Alors, on attend que le CD se...
Alors, entre-temps, j'ai projeté la fameuse couverture de l'ouvrage de Thomas.
Donc là, la piste qu'on va écouter, c'est un extrait d'un album de Pink Floyd qui s'appelle Umaguma Studio Album. Alors, on met... Ok. Non, c'est la deuxième. Hop. Et on va essayer d'avancer un petit peu. Là, ce que vous allez voir, c'est grosso modo, bon, Pink Floyd, c'est connu pour faire du space rock. Là, cet album-là, c'est quasiment de l'ambiance, hein, ambiance désertique. On va aller jusqu'à 2 minutes 45. Vous voyez, c'est vraiment, on explore une pyramide, voilà, descend un petit peu, voilà, reste là, avance, voilà. Donc on explore une pyramide, c'est bien calme, le MJ décrit juste les murs, les hiéroglyphes et tout, la poussière, et puis on sent déjà la tension qui monte. On commence à expliquer aux joueurs qu'ils perçoivent un bruit dans le fond, et à ce moment-là, quelqu'un se fait assassiner. Terriblement se fait déchirer par un monstre surgi des temps anciens, une créature hippopotamesque enrobée dans des bandelettes qui vient de massacrer un de vos coulis. Donc voilà, ça c'est une petite farce qu'il y a dans cet album, parce que le reste de l'album est vraiment très calme. Donc en fait, quand vous menez, l'idée c'est qu'il faut, repérer en fait ces moments-là où ça change. Ça change d'ambiance et vous placez en fait votre narration, vous la placez sur le moment là. J'ai un exemple où c'est très bien utilisé. Il y a un auteur qui s'appelle Valentin Crépeau qui a écrit un scénario pour Sombre, donc qui est un jeu d'horreur. Le scénario s'appelle Void Spider, c'est de l'horreur spatiale, dans un vaisseau spatial. Dans ce vaisseau, il y a une serre avec une verrière. Et donc la musique qui passe, c'est Jupiter and Beyond de Ligeti. Ligeti, autant pour moi pour la prononciation. Hein. Donc la musique classique, donc déjà ça rend vachement l'ambiance 2001 Odyssée de l'espace hein, qu'on a dans ce scénario. En plus de ça, la piste elle dure 15 minutes et en fait dans le jeu les personnages sont prisonniers d'une boucle temporelle. En fait toutes les 15 minutes ils reviennent au point de départ et grosso modo il faut qu'ils répètent la boucle jusqu'à survivre parce qu'il y a des monstres tout ça, donc ils trouvent le moyen de les vaincre et tant qu'ils n'y arrivent pas la boucle se répète. Et en fait il y a un sifflement strident à 6 minutes dans l'album. Et donc, à ce moment-là, il écrit dans le scénario que la verrière explose. Là, donc, c'est pareil, c'est un autre moment où on se calme. Alors après, vous allez... ça, ce genre de petite blague, en réalité, je n'utilise pas souvent, parce que, c'est, mine de rien, c'est assez technique. Je sais aussi que, généralement, quand je parlais de musique sur Internet, il y a beaucoup de gens qui me conseillaient des BO de films, qui me conseillaient des BO de jeux vidéo. C'est quelque chose qui était pour moi difficile à utiliser parce que souvent elles contenaient en quelque sorte leur propre narration et c'était calé sur les scènes du film. Jeux vidéo ça peut plus convenir parce qu'on a déjà des choses qui sont plus neutres, plus des pistes qui vont être plus homogènes en termes d'ambiance. Mais moi je me suis assez rapidement orienté vers des albums entiers où il y avait une ambiance qui bougeait très peu quoi. C'est-à-dire que j'ai des albums qui vont très vite, des albums qui vont très lentement, j'ai des albums qui ont une ambiance de SF tout le temps, des albums qui ont une ambiance folklorique tout le temps, et c'est ce que j'utilisais. En fait, le MJ, c'est un DJ, donc il y a vraiment cette compétence de DJ à développer. Alors moi, je le fais à l'ancienne, hein. J'ai vu des MJ notamment qui utilisaient des playlists sur leur ordinateur et tout, qui passaient beaucoup de temps à faire ça. C'est vrai que sur vos logiciels, vous pouvez facilement taguer vos MP3. Donc, par exemple, vous allez mettre un MP, vous avez tous les MP3, vous pouvez les taguer ambiance taverne. Après, ça vous fait des playlists toutes faites. En parallèle de votre tri par album, vous pouvez trier par ambiance, vous pouvez trier par jeu et tout. Donc, c'est quelque chose qui se fait très bien, mais qui nécessite beaucoup de temps. Et moi, entre-temps, je me suis pas mal intéressé à ce qui s'appelle les musiques sombres, les musiques lourdes. Et là où on a des albums très homogènes.
Alors justement, si tu pouvais nous parler de cet ouvrage.
Ouais.
Comment tu l'as travaillé dans cet ouvrage, vous avez par album un descriptif de ce que cet album peut apporter, etc.
Tout à fait. Grosso modo, il y a environ 150 chroniques musicales. Donc une chronique, c'est un album qui est présenté. Donc généralement des choses un petit peu pas très connues parce que je ne vais pas chroniquer la BO de Pirates des Caraïbes dans le sens où en fait je présuppose que mes lecteurs la connaissent, qui n'ont pas fait une grande découverte avec ça. Donc on est plutôt sur des choses un peu inattendues, un peu underground. Par exemple, je vais vous faire écouter Earth. Earth en fait c'est du drone. Le drone c'est une variante du doom metal où on n'a pas de...
Je vous mets ici le sommaire. Pour que vous voyez un petit peu. Voilà.
Tac. On n'a pas de paroles. Le problème des paroles, hein, comme vous en doutez, c'est que c'est souvent contre-immersif, surtout si c'est en français. Je sais que moi, j'utilise quasiment... si j'utilise des paroles, c'est uniquement des paroles en anglais qui sont un peu moins disruptives. Alors, je veux bien que tu me lances ce truc-là. Voilà, papy découvre MacBook. D'accord. Ouais, on va mettre... on va mettre la deuxième, Hop. Et on va mettre un peu au milieu... Concrètement, donc cet album-là, Earth, c'est de la guitare. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, on est vraiment sur un son de basse omniprésent. Au niveau musical, il doit y avoir deux ou trois accords, c'est très 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 monolithique. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'associe à la musique des grands anciens. C'est quelque chose qui est assez indicible, qui est oppressant, qui pèse des tonnes. Voilà, qui véhicule aucune pitié, aucune intention, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, donc effectivement, pour l'appel de Cthulhu. Et j'avais une petite farce que j'avais utilisée pour j'avais fait jouer l'intro de Notre Tombeau. Notre Tombeau, c'est un jeu d'Anthony Combroxel, où d'ailleurs il propose des playlists. Hein, ce qui était intéressant, c'est que c'était des playlists uniquement des choses en Creative Commons que vous pouvez récupérer en écoute libre sur internet. Donc il avait pensé à l'accessibilité. Et donc j'utilise cet album et en même temps j'utilise France Inter. En fait, au début on joue le quotidien des personnages avant qu'ils arrivent dans les souterrains de Paris, où là ça devient vraiment horrible pour eux. Donc on joue leur quotidien, où là les choses sont à peu près normales mais commencent à devenir de plus en plus glauques. Et donc au début on met juste France Inter, la radio. Et ça je le mets tout bas. Et en fait au fur et à mesure je baisse le son de France Inter et je monte le son de Earth. Généralement, ça faisait bien monter la pression. En règle générale, j'aime beaucoup donc la musique à base de bourdon, parce qu'en fait, elle apporte une texture. Moi, ce que j'attends en fait de la musique en jeu de rôle, c'est d'être une voix supplémentaire et j'ai envie de dire un mur supplémentaire, quoi. Vraiment un décor à part entière, où on va solliciter de la synesthésie, c'est-à-dire qu'à partir de la musique, on va générer du visuel. Et donc dans les bourdons on a des choses très sombres comme Earth, Sono, on a des choses beaucoup plus lumineuses par exemple comme Charlemagne's Palestine, qui sont des bourdons d'orgue qui donnent une ambiance vraiment éthérée. On a des choses comme Rubicon de Tangerine Dream, où en fait on a un album de bourdons mais qui est vraiment aérien, hein, ça... on peut écouter, ouais, tout à fait. Voilà, c'était mon défi personnel de vous faire écouter du drone. Je suis bien content.
Alors, maintenant, Thomas, parle-nous un peu de cet autre projet, là, Dragonfly Motel.
Ouais, alors je vais accompagner une écoute musicale, si tu veux bien, Denis.
Oui. Voilà, ici.
Donc Dragonfly Motel, c'est un jeu que j'ai sorti cette année dans le cadre du concours de création Game Chef. Dragonfly Motel, c'est un jeu en ambiance onirique, surréaliste. On joue des voyageurs imprudents qui démarrent au motel Dragonfly. Et à partir de là, tout est possible. Donc c'est un jeu avec un partage de narration qui est large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de MJ attitré. N'importe qui peut jouer, en plus de son personnage, peut s'amuser à interpréter le décor et les figurants.
Alors tout l'intérêt, c'est que la musique y a sa part.
Voilà. Alors, tac. Bon. Ah oui, c'est la 11. Donc là, on va écouter un album de Tori Amos. Donc Tori Amos, c'est une chanteuse pop. Hein, elle est connue pour Crucify. Et là, en fait, c'est une reprise. Raining Blood, c'est une reprise du groupe de metal Slayer. Alors, grosso modo, elle garde juste les paroles. Hein, ça n'a plus rien à voir musicalement parlant avec le thrash metal de Slayer, quoi. Et en fait, là, on a ce que j'appelle de la pop, mais morbide. Hein. C'est-à-dire qu'on va reprendre des codes musicaux de la pop qui vont évoquer plutôt des choses lumineuses. Et là, par le tempo, par la voix, je vais dire. Voilà. Par la voix spectrale de Tori Amos, on arrive à quelque chose de vraiment onirique et en même temps de glaçant, quoi. Et donc dans Dragonfly Motel, hein, je disais que n'importe qui pouvait jouer le décor et les figurants. En fait, les joueurs et les joueuses apportent chacun leur propre playlist. Soit on fonctionne avec des CD, soit on fonctionne avec des MP3, puis on va tous les stocker dans le même disque dur. Et donc à tout moment, vous pouvez donc en plus du pouvoir que vous avez d'interpréter un décor, un figurant, pour un petit peu modeler l'ambiance selon vos souhaits, vous avez la possibilité en fait de changer la piste en cours, de mettre votre propre piste. Et donc on a vraiment effectivement on utilise vraiment à nouveau la musique comme une voix, comme un joueur supplémentaire.
C'est-à-dire que là, la musique est presque intégrée dans les règles, ou dans, en tout cas.
Ah
dans
oui,
le,
tout à fait,
dans,
ouais.
Voilà. Et donc là, on arrive à une dimension où la musique, oui, prend toute sa part, et même plus que sa part précédente, hein, dans ce jeu de rôle.
Alors, je sais pas du tout combien de temps il me reste. Hein,
on va basculer assez vite à Mathieu, mais tu peux encore parler 2-3 okay. minutes.
Donc, je voulais justement. Je parlais de la pop. Ça peut être très intéressant de jouer un décalage. Et l'avantage de la musique pop, c'est que, qu'on soit amateur ou pas, c'est quelque chose qui nous environne. Contrairement à des musiques plus underground, et donc on a tous des présupposés, des images mentales qui surgissent quand on va utiliser la pop. Si je commence à faire, on va démarrer. Si on démarre sur Will Rock You de Queen, si on démarre une scène de baston là-dessus, tout de suite ça va mettre une ambiance vraiment particulière. Si vous utilisez Rolling in the Deep d'Adele. Pour une scène intense ou pour un combat, c'est pareil, vous allez monopoliser l'inconscient collectif des joueurs et des joueuses. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas rechigner, en fait, utiliser la musique pop, hein, pas uniquement utiliser des musiques qui sont dédiées à des genres, hein, je pense comme le dark ambient, qui est vraiment de la musique dédiée au genre de films d'horreur. Et aussi oser le décalage. Moi, par exemple, j'ai sonorisé une campagne entière de Medfan avec du jazz. Il y a un article sur internet, hein, qui s'appelle The Shape of Jazz of Game to Come. L'avantage d'un genre comme le jazz, c'est que c'est un genre très très, très composite, hein, qu'on part du ragtime, on arrive au jazz fusion, il y a du jazz metal, il y a même du jazz drone, du jazz électronique. Donc en fait, avec un seul genre musical, vous avez une palette d'ambiance complètement dingue. Et donc vous avez cette cohérence de toujours utiliser le même genre et cette variété en fait que le genre, les genres musicaux aujourd'hui sont très très éclatés. Et Et pour finir, une toute petite touche. Donc, c'est vrai que moi, je parle souvent d'utiliser des albums entiers parce qu'on est sur des scènes. Souvent, en jeu de rôle, la résolution d'une scène, ça prend 20 minutes à une heure, quoi. Avec la narration partagée ou avec des jeux plus modernes, des systèmes plus légers, on arrive sur des choses plus courtes où on doit zapper. Donc là, ça devient de plus en plus technique. Il y a quelque chose qui est pas mal du coup, c'est utiliser une piste juste pour le début de la scène, mais un peu comme tu le faisais avec ta narration sur la musique de Conan. C'est-à-dire qu'on a juste la narration qui lance la scène, on a une piste, et après, en fait, ça va colorer le reste de la scène, c'est-à-dire que ça va nous rester dans les oreilles même une fois qu'on a coupé, quoi. Donc c'est une technique qui est assez intéressante aussi. Et ça va créer des effets pavloviens. Si vous avez une musique qui est dédiée au combat, si vous la lancez, vous savez tout de suite que vos joueurs vont sortir leur katana et que ça va partir. Vous pouvez même faire des décalages avec ça. Voire même, il y a peut-être des quiproquos qui vont démarrer, des bastons qui n'étaient pas prévus juste parce que vous avez utilisé la musique dans une auberge où l'ambiance était un peu tendue.
Alors, pop, jazz, mais aussi classique. Hein, alors, j'annonce, si je puis dire, dans Jeux de Rôle Magazine, qui est la dernière revue qui est encore distribuée en kiosque, j'inaugure à partir du numéro prochain une rubrique qui s'appellera Le classique, c'est fantastique, et qui proposera à chaque fois une œuvre de musique classique avec des propositions d'utilisation dans le cadre de Seigneur du jeu de rôle. Et pour ce premier numéro, ce sera autour de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Alors je passe maintenant la parole à Mathieu, mais j'évoque un peu le contexte. Donc à l'Acato d'Angers, je dirige la filière musique et musicologie, et étant donné mes hobbies par ailleurs, j'ai impulsé depuis quelques années une orientation d'une option lourde qu'on appelle une mineure désormais, qui s'intitule « Musiques actuelles et paysages sonores ». Et dans ce cadre-là, les étudiants ont une formation complémentaire par rapport à la formation classique des licences de musicologie, qui tourne autour des musiques actuelles, donc des musiques amplifiées, où ils ont des cours de théorie, d'histoire et de pratique. Et puis le paysage sonore sur tout ce qui est le son et l'environnement sonore de manière plus générale. Et à certains semestres, ils travaillent avec Mathieu, qui est donc un ancien de la filière, mais désormais compositeur de musique de film. Ils travaillent des musiques dédiées à des scénarios de jeux de rôle, et en particulier pour l'appel de Cthulhu. Donc voici le site de Mathieu Wilbert, qui entre autres est le lauréat des 10 ans de la société des compositeurs de musique de film, hein, et voilà, qui commence à... Alors voilà le contexte. Donc les étudiants travaillent dans ce type de box, jour et nuit éventuellement. Et ça donne lieu à des albums qui sont déjà en site, sur site, celui de Sans Détour. Ça a commencé donc avec Les Horreurs venues du Goth, puis d'autres dont Mathieu va parler.
Donc, merci Denis pour cette présentation et bonjour à tous. Donc effectivement, ce qui est intéressant, ce que parlait Thomas Meunier sur justement le jeu de rôle, c'est un petit peu une continuité que je fais dans le cours où j'interviens, donc notamment en musicologie à l'université d'Angers. C'est finalement de faire une initiation à la composition pour des étudiants sur scénario et sur la musique pour l'image. Alors, on peut vraiment faire un lien entre la musique à l'image et le scénario, où c'est exactement le même principe, c'est que finalement, on a des contraintes, on a un scénario. La plupart du temps, même la musique de film, on compose pas forcément sur l'image, mais on compose sur un scénario. French Connection, par exemple, French Connection, super anglais. Par exemple, la musique de 15 minutes, le scénario, en l'occurrence, c'était juste course-poursuite. Et donc le compositeur a composé une musique de 15 minutes que après le réalisateur a intégré sur l'image. Donc il y a plein de manières de faire. Le scénario, ce qui est intéressant, c'est que ça enlève la contrainte de l'image. C'est que là, tous les étudiants donc, peuvent avoir leur propre imaginaire par rapport à ce qui est écrit sur le scénario. Donc, plusieurs livres vont être présentés et où j'ai fait travailler les étudiants les différentes années. Donc, le premier livre, ça s'appelle celui que vous voyez
Les Horreurs venues du Goth
à l'écran. Donc, le plus simple, c'est peut-être que je vous fasse écouter quelque chose et après on en parle ensuite.
Voici la tracklist. Plusieurs scénarios dans différents endroits du monde. Et là, on va vous faire écouter, je pense, Les Abominations d'Amazonie. C'est ça ?
L'arrivée à Iquitos.
L'arrivée à Iquitos. Voilà. On est dans l'ambiance, tout à fait.
C'est exactement le même principe que Thomas présentait, sauf qu'en fait, ces musiques-là sont vraiment personnalisées et sont sur une scène précise sur le scénario. Donc c'est un petit peu la continuité, en fait, c'est pas juste le fait de mettre une musique d'illustration, c'est également mettre une musique sur une scène précise qui permet vraiment d'apporter une touche supplémentaire au jeu de rôle.
Voilà la page en fait qui correspond les pages du scénario. Hein. L'arrivée à Iquitos, c'est sur la page de droite, avec différentes photos puisque Sans Détour est réputé pour ajouter des plus à cet scénario avec des bases de données de photos d'époque absolument fabuleuses.
Ah oui, voilà, ils ont la chance d'avoir des belles images en plus.
En général, ces scénarios-là qui sont d'origine américaine, traduits. Et puis la version française, c'est le jour et la nuit, souvent en termes de présentation en tout cas. Alors, l'album suivant était...
Ouais. Pardon. Alors, j'en profite justement pour justement le cours. En fait, c'est l'initiation à la MAO, donc c'est la musique assistée par ordinateur. Et c'est qu'on a la chance donc, d'avoir à l'université donc, des box dédiées Donc à la composition vraiment professionnelle, donc avec justement notamment des Mac, mais ça pourrait être des PC, c'est exactement pareil, mais vraiment il y a des enceintes de monitoring, donc des enceintes dédiées justement à un mixage professionnel, un petit clavier que vous voyez là à l'écran qui leur permet justement de composer. Donc c'est pas comme un vrai piano, mais ça leur permet, en fait, c'est ça qui est intéressant, de composer différemment. Et aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle mode, c'est-à-dire que maintenant, avec toute la technologie, tout le monde peut, entre guillemets, composer. On appuie sur une touche, vous voyez, ça va faire un, oh, ça va faire un truc énorme, alors que c'est juste une touche. Après, voilà, le principe, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer donc, de trouver vraiment
créatif.
Voilà, une composition créative et qui est quand même structurée. Voilà. Et bon. Donc on peut justement passer au...
Alors le suivant, nouveau conte de la vallée du Miskatonic. Ou le scénario dont j'ai déjà parlé, Minuit sonnant. Minuit sonnant, ça a plusieurs sens. Hein. Évidemment, c'est la sonnerie de l'horloge, mais c'est aussi on est sonné par l'alcool, etc. Parce que c'est un scénario qui se passe dans la bonne société d'Arkham, mais avec des soirées souvent bien arrosées, etc. À chaque fois, cette année-là, Mathieu leur avait demandé de composer un générique, c'est-à-dire un morceau susceptible de donner l'ambiance générale du scénario pendant qu'on s'installe, et puis ensuite de développer une scène particulière. Donc c'est le cas ici, pour Minuit sonnant, où les étudiants là se sont vraiment bien approprié le thème. Un mélange de jazz, mais brumeux, avec des sonneries de cloche, etc.
Là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment eux qui ont enregistré avec leurs propres instruments, avec un vrai saxophone.
Je vous fais passer pour les photos.
Et ils allient en même temps les sons virtuels derrière. C'est une vraie batterie aussi, qu'on entend. Voilà.
Là, c'est la fin qui se finit mal.
Comme dit Thomas, il y a un son d'ambiance de fond qui permet de garder cette fameuse tension. Du coup, du scénario.
Voilà, c'est sur la longueur aussi qu'il faut donc penser ça, mais vous voyez, les sons vraiment très travaillés et de manière intéressante, pas uniquement synthétique.
Alors,
le suivant, ça c'était l'année dernière. Ça n'est pas encore en ligne parce que Sans Détour, d'abord, a pris beaucoup de retard avec la sortie de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu qui sort dans les semaines qui viennent. Là, vous pouvez aller au stand en sous-sol, là, tout à l'heure, vous verrez la grosse boîte. Il y a je ne sais combien d'ouvrages, puisqu'en fait, il y a eu un crowdfunding, on en parlait tout à l'heure dans la conférence précédente, qui a recueilli plus de 400 000 euros. Et qui a ajouté les goodies aux goodies, et on arrive à une boîte immense. Donc, la mise en ligne de ces musiques qui sont prêtes depuis plusieurs mois va se faire, mais n'est pas encore le cas. Donc là, vous allez entendre des musiques encore inédites. Le volume proposé cette année-là, c'était la Terreur venue du ciel. La nouveauté, c'est que là, c'était une campagne, c'est-à-dire une suite de scénarios, une dizaine de scénarios, qui se déroulent dans une ambiance un petit peu pulp aussi. Hein, vous voyez un clin d'œil à Metropolis, et on leur avait proposé un nouveau concept là encore, un peu comme dans la Symphonie Fantastique, c'est-à-dire un thème qui traverse tous les scénarios, à eux de proposer le meilleur, donc on en a retenu un, et ensuite chaque groupe devait se servir de ce thème, le remettre en le travaillant comme il voulait. Alors Mathieu va nous faire écouter, je sais pas.
Donc là, vas-y. Ça va être dans une cathédrale et toujours voilà. Avec la fameuse mélodie justement qui devait travailler.
C'est le scénario qui se déroule à la cathédrale de Durham en Angleterre.
Thank you. voilà le thème. Et donc dans tous les scénarios, fallait que les étudiants donc composent sur ce thème. Mettre.
Ça sera dans les semaines qui viennent sur le site, toutes donc, ces musiques.
Voilà, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, les étudiants, en fait, il fallait qu'ils travaillent par équipe et sur tous les scénarios, il fallait qu'ils trouvent une cohérence avec les différents thèmes proposés. C'est un petit peu comme une série, finalement, je les ai fait travailler comme une série télé où donc il y a le fameux générique qui est quand même qui doit être efficace et ensuite toutes les idées qui sont définies généralement musicales sont définies par l'idée du générique et c'est le thème principal généralement qui est évocateur. Voilà.
Cette année et en ce moment, les étudiants sont en train de travailler sur les scénarios propres à l'édition 7, dont je vous ai dit qu'elle n'était pas encore tout à fait sortie. Elle devait sortir en septembre, et puis ça a pris du retard. La livraison de Chine, si j'ai bien compris, a pris un peu de retard. Alors cette édition 7 de l'Appel de Cthulhu, comme vous voyez, elle est pléthorique, grâce aux plus de 400 000 euros réunis. Puis vous voyez la petite vignette, là, sur le site Ulule, qui est un des sites principaux francophones de crowdfunding, financée avec succès en 25 minutes. Donc ils ont toutes catégories confondues, hein, que ce soit je sais pas, des demandes pour des mobiliers, des associations, des ceci, cela, remporté le record en fait, du projet financé le plus rapidement possible. En 25 minutes, la somme demandée était déjà acquise et ça a donc été jusqu'à plus de 400 000 euros. D'où tous ces ouvrages qui sont dans une grosse boîte hein, que vous pourrez voir en bas. Dans tous ces ouvrages, vous avez plusieurs scénarios dans le livre de base du maître de jeu. Et puis, il y a un ouvrage de scénario supplémentaire hein, qui a été rajouté grâce au crowdfunding. Et deux de ces scénarios sont également utilisés pour les étudiants. Donc, il y en a quatre en tout. On remarque que dans cette nouvelle édition, Cthulhu évolue plus vers les années 30, en fait, vers la prohibition, vers les incorruptibles, les joueurs étant amenés presque à jouer des malfrats qui vont être confrontés au mythe, bien sûr. Mais bon, il y a des choses un peu nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude obligatoirement de voir autant dans l'Appel de Cthulhu. Et ça permet justement à nos étudiants de se renouveler du point de vue de ce projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça sera en ligne dans pas trop de temps et ça va correspondre à la sortie de la 7e édition.
Voilà, et donc ils vont créer vraiment des ambiances par rapport à chaque lieu où les investigateurs du coup vont se rendre dans le scénario. Et donc ça permet vraiment aux joueurs de se mettre dans l'ambiance. Et c'est pas seulement justement de composer de la musique d'illustration, mais c'est vraiment de proposer également aux joueurs quelque chose que justement le scénario ne précise pas. Comme justement sur l'image, c'est exactement la même chose. C'est des fois, la musique va suggérer quelque chose qui va se passer sur l'image. Et donc, s'il n'y a pas la musique, justement, le spectateur ne saura pas. Là, c'est exactement le même principe. Donc, on bosse surtout sur ce genre de choses. Voilà.
Et on arrive donc à des produits entièrement dédiés à un produit. Donc on a fait beaucoup de chemin du point de vue du rapport entre la musique et le jeu de rôle. Bah écoutez, il nous reste quelques minutes, alors on va pouvoir peut-être prendre quelques questions. Oui, devant. On a du mal à vous voir en fait avec les spots. Mais...
Je voudrais avoir votre avis justement sur des produits comme le Succubus Club, par exemple, l'album qui était sorti pour donner une musique d'ambiance à Vampire la Mascarade, le plus grand jeu de tous les temps, tout le monde est d'accord. Donc justement, quand on a des artistes comme Crux Shadows, par exemple, où il y avait Carfax Abbey aussi qui avait fait la musique du Clan Malkavian, comment est-ce qu'on classe ce genre de choses qui effectivement inclut des paroles, inclut de la musique qui peut être diffusée dans le club en lui-même, puisque le truc se passe dans une boîte de nuit souvent. Ça, comment est-ce qu'on classe par rapport à tout ce dont vous avez parlé?
Je pense déjà, si tu as des, si tu as des paroles, tu peux l'utiliser comme thème, quoi. On a aussi la notion, ça peut être des choses qu'ils peuvent utiliser et utiliser pour caractériser certains de tes figurants, ou voire même quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de demander à chaque joueur de se choisir, de se choisir un thème pour qui serait le thème de son personnage et qu'on va utiliser pour les scènes qui sont vraiment centrées sur son personnage. Donc là, si tu as cet outil, là, si tu as un album entier, tu peux leur faire écouter par exemple l'album dans un premier temps et leur dire bah déjà vous choisissez-vous un thème pour vos personnages, les thèmes qui n'auront pas été choisis, je vais les garder pour mes figurants. Ou pour mes endroits, dans le Succubus Club, il y a la partie secrète VIP qui est dans la cave, là on va mettre une musique exprès pour cet endroit-là.
D'autres?
Oui, moi j'étais intéressée par la conférence parce que j'ai toujours joué sans musique en fait, où le bruit de fond c'est généralement les plaintes OMJ et les joueurs qui discutent, quoi.
Ou les chips. Ouais,
voilà, et en fait je me demandais si justement ça casse pas des fois la narration, comme Thomas malheureusement fait un peu l'expérience là, de couper pour lancer une piste ou pour mettre un bruitage, alors que l'OMJ peut très bien faire le bruitage à la bouche et puis ça contribue, on peut se moquer si on n'a pas peur de perdre des XP. Et si c'est pas une mode un peu cinéma américain d'intégrer finalement, après tant de temps, la musique au jeu de rôle, comme on fait dans les films, quoi.
En fait, vous avez tout à fait raison. On n'est pas obligé de mettre de la musique à tout prix. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à bien s'en servir, il vaut mieux pas. C'est clair que ça va plus gêner qu'autre chose. Après, si vous arrivez vraiment bien à maîtriser la chose, et je pense que Thomas l'a montré un peu tout à l'heure, ça marche aussi, mais c'est pas obligatoire, hein. Après, la technique nous facilite quand même les choses, hein, par rapport à il y a quelques temps. Mais il faut absolument le sentir, ça c'est tout à fait vrai. Faut
être familiarisé à ton matériel.
Voilà.
Là, par exemple, ça marchait pas parce que si tu veux, je connaissais pas l'ordinateur. Donc c'est pour ça que j'expliquais que généralement je viens avec mon propre lecteur. Faut bien connaître tes pistes, bien connaître ton matériel. Le principe d'utiliser des albums qui soient très homogènes en ambiance, ça permet que ta musique d'abbaye bien sacré et tout, puis tout d'un coup il y a un morceau de jazz qui surgit alors que t'avais pas fini ta scène. Là, ça veut dire que t'as tout simplement pas choisi le bon album, quoi. Pour moi il faut des albums ou des pistes qui sont très homogènes en ambiance, et éventuellement se limiter juste à un thème d'introduction, ça évite pour les, on va dire, les MJ DJ débutants, ça évite le genre de déconvenu que tu peux évoquer.
C'est-à-dire que la musique peut simplement être un fond sonore d'ambiance, et la technique là aussi nous aide, puisqu'on peut passer le même morceau en boucle de manière continue et très très longue finalement.
Ça peut rendre fou. Hein.
Voilà.
tu le sais.
Mais justement, voilà, donc si on ne le sent pas, si on n'arrive pas à maîtriser la chose, il vaut mieux pas, effectivement. Je pense que ce qui est bien, c'est de toute façon répéter avant la partie certaines scènes et voir comment on gère. C'est comme une conférence, hein, comme n'importe quoi. Il faut un petit peu voir où on va, être parfois surpris que telle chose qu'on croyait qui allait marcher ne va pas marcher. Et donc préparer un peu la chose, ça exige du temps, ça c'est sûr.
Et surtout, ce qu'il faut retenir, et ça c'est pas anticipable, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport. On a chacun un rapport très intime à la musique, et on va pas se projeter les mêmes images avec les mêmes pistes. Donc il peut arriver que toi, tu vas utiliser une musique parce qu'elle t'évoque une ambiance particulière, et que les joueurs derrière, le message ne passe pas. Donc il faut évidemment appuyer ta musique par ta narration, et il faut aussi être à l'écoute des joueurs. Moi je sais que généralement je préviens avant la partie en disant aux joueurs que s'il y a besoin, je suis prêt à éteindre la musique si par exemple ça les sort de leur immersion, quoi.
Je pense qu'il y a une problématique aussi qui est liée à la musique de cinéma, Mathieu va pouvoir nous dire ça, sur quel est le rôle de la musique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça en raconte trop ? Non, sans doute. Il faut aussi qu'elle puisse être un peu en retrait. Enfin, on a ça dans le cinéma. Hein.
En fait, je rebondis déjà sur cette question, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de personnaliser la musique et de ne pas juste prendre un CD déjà tout fait, ou voilà, qu'on compense pour une scène de guerre, comme par exemple Francis Ford Coppola est très fort là-dedans, où il prend des scènes comme la première scène dans Apocalypse Now, au début, où il met la fameuse musique de The Doors, alors que voilà, on pourrait mettre quelque chose de beaucoup plus apocalyptique avec un gros orchestre, alors qu'il met une musique rock. Donc là, c'est comment lui l'interpréter. Après, effectivement, de personnaliser la musique, la manière la plus simple et la plus efficace, c'est surtout de personnaliser des ambiances. Donc, même pas réaliser de musique, mais surtout de réaliser des bruitages, du sound design, qui va permettre, effectivement, si là, ça se passe dans une cave ou dans la jungle, et ben là, c'est nettement mieux de prendre justement le CD qu'on aurait personnalisé, par exemple ce que je fais comme travail avec les étudiants, qui va vous permettre d'avoir les gouttes, les bruits de pas, comme le scénario le dit, en fait, alors que sur un CD, que vous aurez pas cette chose. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Deuxième chose qui est intéressante, c'est de faire comme le jeu vidéo. C'est-à-dire que pourquoi on s'ennuie jamais quand on meurt dans un jeu vidéo Je pense à Metal Gear Solid, par exemple, où ça m'est arrivé plusieurs fois de mourir, de revenir à la case départ. Et ben, la musique, elle change. En fait, la musique reste la même rythmique, mais elle change un tout petit peu pour ne pas lasser le joueur. Et en fait, comment eux, ils composent une musique de jeu vidéo, par exemple, c'est que dans une certaine scène, dans un certain secteur, et ben, quand le personnage il va rentrer dans ce secteur-là, la musique va s'enclencher. Donc pourquoi pas faire la même chose pour le jeu de rôle, c'est-à-dire personnaliser le jeu de rôle, vous mettez la piste qui dure par exemple 15 minutes, sur 15 minutes au final c'est à nous en tant que compositeurs de penser quand les musiques vont s'enclencher, donc 3 minutes, 5 minutes, donc après vous allez me dire ça dépend du débit de la personne et de celui qui fait ça, mais ce qui peut être intéressant c'est qu'imaginez-vous le maître du jeu qui a un CD tout préparé et qui le prépare chez lui avec un débit adapté à la vitesse qui permettrait justement au joueur, bah là, du coup, ça peut devenir très intéressant, par exemple.
Bien, écoutez, il est l'heure, donc je vous remercie. Et puis, on est à votre disposition si vous voulez nous poser d'autres questions.
Merci beaucoup à vous.